Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Vendredi, samedi et dimanche, c'est le 6e micro-festival du film Adieu le Fi et j'ai le plaisir d'accueillir à Radiola aujourd'hui Bernard Delpal, historien et membre de l'association PMH, PMH pour Patrimoine, Mémoire et Histoire. C'est l'association organisatrice de ce micro-festival dont c'est la 6e édition. Bernard Delpal, bonjour.
Bonjour.
Cette année, on parle religion dans les films que vous avez sélectionnés. La thématique, c'est le fait religieux contemporain avec pour problématique principale, est-ce qu'il y a un retour ou plutôt une disparition, un effacement de ce fait religieux? Alors, c'est une reprogrammation puisque vous avez dû annuler l'édition 2020 pour raisons sanitaires. Qu'est-ce qui, à l'époque, j'imagine en 2019, avait motivé Bernard Delpal ce choix de mettre en perspective ainsi le fait religieux?
Eh bien, parce que nous sommes dans un pays laïque, d'une part, et dans un pays où un certain nombre d'intellectuels avaient annoncé la disparition du religieux. Je pense ici à Marcel Gauchet, qui avait publié en 1986 un livre qui a fait beaucoup de bruit les années suivantes, Le désenchantement du monde, dans lequel, preuve à l'appui, il démontrait que le christianisme aura été pour notre pays, et peut-être pour l'Europe à suivre, la religion, je cite de mémoire, de la sortie de la religion. Alors la religion en tant que telle n'est pas étudiée à l'université, sauf sous la forme de histoire des religions, anciennes ou médiévales, et on préfère dans le monde des sciences humaines, à l'expression religion, on préfère fait religieux, c'est-à-dire fait social, fait culturel, fait affectif, collectif ou individuel, mais un fait à étudier.
Alors le fait religieux, retour ou effacement, c'est d'actualité. À un moment où les croyances semblent virer de bord, il y a un sondage IFOP qui a été publié en septembre qui annonce que 51% des Français se déclarent maintenant non-croyants dans un pays à majorité catholique, ce qui marque un net déclin du fait religieux dans la société actuelle et ce depuis belle lurette, disons les 70 dernières années. En 47, par exemple, 66% des Français se disaient croyants. Est-ce que c'est une crise de foi, sans jeu de mots ou avec jeu de mots, ou un déplacement des croyances en France, selon vous?
Il y a indiscutablement un phénomène de sécularisation, c'est-à-dire que le religieux, s'il existe, s'il vit, a tendance à se développer hors des institutions traditionnelles. Autrement dit, le fait que une petite majorité de Français déclarent ne plus croire en Dieu ne signifie pas pour autant qu'ils n'ont plus de relation avec le religieux. Ça, c'est le premier point. Alors, il est vrai qu'on observe, si on s'en tient au comptage, par exemple, de moins en moins de gens vont à la messe, les mariages religieux diminuent, aussi vite que les mariages d'ailleurs. Les grandes religions reconnues, catholicisme ou protestantisme, ont du mal à trouver des curés ou des pasteurs, nous le savons tous. Pour autant, depuis, disons, une quinzaine d'années, la tendance en sciences humaines est de dire « attention, observons bien les manifestations du religieux en dehors des institutions religieuses ».
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire, par exemple, dans les réactions aux attentats de 2015, il y a eu une prise de conscience du fait qu'il y avait une religion qui ne se comportait pas comme les autres en France, parce que, semble-t-il, il y avait beaucoup de pratiquants, beaucoup de conversions, c'était l'islam. Et ça a obligé toute la société française à réfléchir à l'importance du religieux dans la vie collective. Le fait qu'un jeune homme brandisse un couteau en criant pour Allah ou vive Allah, ça, brutalement, on s'est dit, mais le religieux existe et il peut conditionner des comportements. Donc il y a eu une prise de conscience et dans les réactions aujourd'hui à l'islamisme, comme on dit, il y a, par exemple, je trouve un certain nombre de philosophes ou de penseurs qui disent « attention, rappelons-nous que nous sommes issus d'une civilisation chrétienne. Autrement dit, pour expliquer les fractures de la société française, un des éléments épuisés dans le vocabulaire religieux.
Alors, on va revenir au sixième micro-festival du film, après ce préambule très, très intéressant. Grâce à votre programmation, on va se rendre notamment à Lourdes avec Sylvie Testu, vendredi, mais aussi en Bosnie, à Gaza. Le cinéma de fiction nous permet de voyager. Cette déréliction de la croyance, du rapport à Dieu, est-ce qu'elle est partagée de façon plus générale dans d'autres pays du monde ?
Alors, vous avez raison, il faut toujours considérer la situation française par rapport à d'autres pays. Le fait est, par exemple, que ce qu'on appelle la sécularisation, hein, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de comportements religieux deviennent maintenant des comportements civils sans référence à Dieu, la sécularisation se développe dans tout l'Occident européen. Pour les États-Unis et l'Amérique latine, je serais plus prudent. Parce que, bien qu'aux États-Unis, par exemple, il y ait une séparation radicale entre les églises et l'État, pour faire court, il n'est pas imaginable qu'un président des États-Unis, qu'un candidat à la présidence, affirme ne croire à rien, ni à Dieu, ni à diable. C'est inimaginable aux États-Unis. Le président Barack Obama s'est bien présenté comme un religieux. Hein, et il a eu des références religieuses explicites pendant sa campagne. Autrement dit, aux États-Unis, aujourd'hui, malgré la sécularisation, il n'est pas pensable d'affirmer qu'on ne croit à rien si l'on veut exercer des fonctions publiques.
Alors, dans les trois journées du festival, donc vendredi, samedi et dimanche, 6 films sont proposés, 2 par après-midi. Vendredi 12, c'est Lourdes et les Éblouis. Samedi 13, Le Cochon de Gaza et Agora. Et dimanche 14, A Perfect Day et les Chevaliers Blancs. Qui a fait le choix de ces films ? Comment se sont-ils imposés ?
Alors, le choix de ces films, c'est un groupe de travail à l'intérieur de PMH qui est, disons, un groupe cinéphile et qui a travaillé avec un autre groupe qui, lui, a cherché à bâtir des thématiques. Autrement dit, on s'est mis d'accord sur 3 thèmes, 3 journées, un thème pour chaque journée. Et ensuite, le groupe cinéphile a cherché des films qui pouvaient alimenter cette réflexion et sur lesquels pouvaient s'appuyer les spécialistes qui vont intervenir. Alors, si vous voulez, le premier jour, par exemple, c'est la conversion. Le second, c'est la tolérance. Et le troisième jour est consacré à un phénomène qui a été beaucoup étudié à Lyon, où depuis quelques années, il y a une formation aux professions des ONG avec Bioforce, c'est-à-dire le glissement de ce qu'étaient les missions traditionnelles à des organisations de bienfaisance et de charité, et puis à ce qu'on appelle maintenant les ONG, les organisations non gouvernementales, qui ont un statut légal au plan international.
Comment ça s'explique, cette laïcisation de la charité ?
Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que le religieux a de multiples façons de se maintenir, de s'affirmer dans la société. Par exemple, aujourd'hui, dans une commune, l'organisme chargé de l'aide aux personnes en difficulté, ça s'appelle le CCAS. C'est-à-dire, c'est un organisme d'aide sociale. Autrement dit, la société a pris conscience du fait qu'elle ne pouvait pas abandonner ceux qui étaient en perdition. Autrefois, on parlait du bureau de bienfaisance et avant, on parlait du conseil ou du comité de charité. Charité, bienfaisance, aide sociale, si vous voulez, ces étapes marquent l'évolution de toute la société par rapport à ceux qu'il faut aider. Alors d'abord, à l'intérieur de son propre pays, et puis parce que la France est un pays de colonisation forte. Mmh. On a exporté ce modèle et tout naturellement, dans les pays qui étaient autrefois des pays de l'Empire français, un certain nombre de missions sont parties. C'est d'abord des missions religieuses. Hein. On pense aux pères africains, par exemple. Mmh. Et puis, peu à peu, ces missions sont devenues civiles, c'est-à-dire que les religieux ont été remplacés par des quasi-professionnels. Je pense ici à Médecins sans frontières, par exemple, hein, qui est très caractéristique de cette évolution.
Alors, cet événement est organisé par l'association PMH, comme je le disais, auprès de laquelle vous œuvrez en tant que conseiller historique, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
En votre qualité notamment de chercheur, vos recherches portent sur le fait religieux. À ce titre, vous êtes donc le parrain de cette 6e édition du Microfestival et vous allez y animer les 3 débats qui auront lieu chaque jour entre les 2 films. Quels sont les universitaires qui sont invités par rapport aux thématiques ?
Alors, pour la conversion, qui est un phénomène à la fois très vivant, très contemporain, qui a beaucoup frappé l'opinion. Hein, le converti, c'est quelqu'un qui... c'est comme quand on fait du ski. Hein, la conversion, on change de direction. Hein, on glissait vers le sud. La conversion, c'est glisser vers le nord. Eh bien, c'est ça, la conversion. Hein, c'est que... il y a une rupture importante, soudaine, dans la vie qui fait qu'on n'est plus le même. On n'est plus la même. Et toute la vie change pour le converti. Et les convertis ont une action, hein, soit au sein de la famille, soit au sein de leur réseau, de leur relation. Et on s'est bien aperçu au moment des attentats à Paris et dans d'autres lieux que les convertis, les récents convertis, étaient extrêmement actifs pour... défendre, propager leur propre religion. Donc, la conversion, alors ce thème a été confié à Corinne Bonafou, qui travaille depuis longtemps sur l'évolution du catholicisme, non seulement en Savoie, mais au plan national, qui a plusieurs colloques à son actif et qui a beaucoup réfléchi justement sur l'imprégnation religieuse au sein de la société et son évolution. Ça, c'est pour... Corinne nous vient de l'Université de Savoie.
Et du coup, le phénomène de la conversion pose la question du non-converti ou bien encore de l'ancien converti. Et là, on arrive sur la tolérance. Donc, c'est très bien construit. Ça, c'est le thème de samedi.
Voilà. Alors, la tolérance, nous nous sommes posé la question, en particulier face à l'islam et aux pays dits musulmans ou arabo-musulmans. Est-ce que, lorsqu'on s'est converti, on s'est converti pour toute la vie ? Et si, par hasard, en chemin... tout d'un coup, on perdait la foi, que devient-on ? Alors tout dépend du pays et de la situation. Et évidemment, le mot « tolérance » en France fait penser tout de suite à Voltaire et aux philosophes du XVIIIe siècle qui, dans un pays qui s'affirmait catholique, majoritaire, il ne faut pas oublier que ni les protestants ni les juifs n'existaient civilement dans la France du XVIIIe siècle. Voilà que dans cette France du XVIIIe siècle, où le catholicisme est tout puissant, les philosophes des Lumières affirment le droit absolu à la non-croyance et le devoir absolu des croyants d'être tolérants vis-à-vis de ceux qui ne croient pas. Mmh. Autrement dit, ils voulaient affirmer l'égalité de droit entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Ça, c'est la trajectoire du XVIIIe siècle et c'est ce qui inspire évidemment notre laïcité.
Et cette notion absolue de tolérance. Le samedi 13, ce sera donc Aouès Séniguer,
oui. Alors, oui. C'est un collègue qui n'est pas inconnu des dieux fitois parce qu'il est déjà venu donner une conférence très audacieuse et très difficile sur la laïcité en islam, où il a bien démontré qu'elle existait, mais que c'était un terrain extrêmement délicat, mouvant, voire dangereux. Et là, il reprend à son compte cette réflexion sur la tolérance. Et évidemment, l'avantage de Aouès Séniguer, c'est qu'il enseigne à Sciences Po, mais également en Afrique. Il a des grandes responsabilités de recherche. Et il va apporter la lumière du chercheur pour aborder des problèmes qui, dans une conversation ordinaire, soulèvent immédiatement la passion.
Il interviendra donc dans une causerie animée par vos soins entre le film Le Cochon de Gaza de Sylvain Estibal et Agora, un film d'Alejandro Amenábar. Ça, c'est pour le samedi après-midi. Et on passe à dimanche avec Claude Prudhomme, professeur émérite d'histoire des religions à l'Université Lyon 2, qui viendra animer un débat sur le développement justement des ONG dont on parlait tout à l'heure.
Alors, Claude Prudhomme est un... des grands spécialistes français de l'histoire des missions, vu du Vatican, vu du sommet de l'Église, puisque le catholicisme a pour mission, s'est donné pour tâche de convertir le monde. Il se pense à l'échelle planétaire, exactement comme l'islam. Et depuis le XVIIe siècle, le catholicisme s'est doté d'un organe extrêmement actif, la Congrégation pour la propagande. Pour la propagande de la foi en Dieu. Hein. C'est-à-dire que le catholique ne peut pas trouver le repos tant qu'il y a sur terre des gens qui sont dans l'erreur et qu'il faut convertir. Hein. La fonction essentielle de la propagation pour la foi, c'est d'envoyer des religieux dans le monde entier pour qu'ils convertissent les peuples sauvages, indigènes, incroyants, animistes, matérialistes, etc. Et Claude a consacré sa thèse à une recherche sur cette congrégation de la propagande et peu à peu, il est devenu l'histoire des missions, spécialement en Afrique. Et il a observé le passage des missions qui sont un peu dans le giron du colonialisme, à des missions qui s'exonèrent du colonialisme, qui reconnaissent la souveraineté des États africains, qui sont donc des hôtes, des États souverains, et qui, là, vont développer des programmes d'aide humanitaire, de développement humanitaire.
Et quels sont les deux films qui seront présentés dimanche ?
Alors, A Perfect Day et Les Chevaliers Blancs, ce sont évidemment des films qui mettent en scène, qui vont attirer notre attention sur les humanitaires. Et le deuxième film s'appuie sur un fait réel, c'est l'aventure de l'Arche de Zoé, c'est-à-dire que de très jeunes gens, dans un État africain, avaient cru repérer énormément d'orphelins et ils organisaient le transport de ces orphelins en Europe où ils étaient accueillis par des familles d'accueil qui, de leur côté, avaient été préparées et qui aussi avait contribué financièrement à l'opération, jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'on avait simplement oublié de demander à vérifier que ces enfants étaient bien orphelins, qu'ils n'avaient pas des familles, et quand ces familles se sont manifestées, l'affaire a explosé. Mais ça en dit long. Alors peu à peu, d'ailleurs, depuis des territoires comme l'île Maurice, qui avait été colonisée, ont interdit l'adoption d'enfants par des Blancs et par des Européens, car au scandale de l'adoption d'enfants qui n'étaient pas de vrais orphelins, s'est ajouté un scandale lié à la liquidation de la colonisation.
Alors d'habitude, il y a ce sont 6 films de fiction, donc 2 par après-midi, et d'habitude, dans les autres années, il y avait des documentaires. Pourquoi vous avez fait ce choix de la fiction, alors ?
Ben parce que finalement, sur ces sujets-là, les documentaires ne nous aidaient pas. Au contraire, il refermait le débat, alors que la fiction nous permet de l'ouvrir davantage et donne davantage de liberté aux spécialistes qui interviennent. C'est lié au sujet, ça ne veut pas dire que pour une prochaine thématique, on ne reviendra pas au système documentaire-fiction.
C'est un meilleur appui pour...
Là, ça nous a paru plus adapté au sujet et à notre démarche, mais comme toujours, c'est le public qui jugera.
PMH a pour vocation de conserver la mémoire dite invisible. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que cette mémoire invisible ?
Alors la mémoire invisible, ça peut aller de, par exemple, nous travaillons en ce moment, nous avons un programme de travail sur céramique et terre vernissée, et au cours des deux rencontres qui viennent de se dérouler, 23-24 octobre, nous sommes aperçus que dans notre programme, il y avait la nécessité de rendre compte du savoir-faire, des savoir-faire multiples qui se sont accumulés, savoir comment ces savoir-faire se sont construits, comment ils se sont développés, comment ils se sont transformés, comment les céramistes d'aujourd'hui, d'une certaine manière, se trouvent à l'extrémité d'une longue chaîne. Et ce qui se traduit, c'est des choses... Alors, on peut les rendre visibles, on exposera des objets, mais surtout, on sera attentif aux savoir-faire qui ont conduit à ces objets.
Le patrimoine immémorial.
Oui, c'est l'UNESCO s'en occupe. Hein. Par exemple, à l'échelle de la planète, du globe, on est très attentif à conserver des savoir-faire qui ont pu disparaître, et qui sont les témoins d'une civilisation passée. Mais une civilisation, j'allais dire, est éternelle. Hein. On le voit bien avec les progrès qu'on fait pour la préhistoire. C'est-à-dire que nous nous appuyons sur les épaules de nos prédécesseurs et notre présent, mais aussi ce que nous allons décider pour l'avenir, est conditionné par ces transmissions.
Est-ce que vous avez une petite idée de la prochaine thématique que vous avez envie d'aborder pour la septième édition du
Alors, j'ai bien une idée, mais je me garderai bien de la révéler ici, à votre micro, parce que je suis très attaché au fonctionnement collégial de PMH, et nous aurons, au mois de janvier, un petit comité qui va réfléchir et faire des propositions qui seront adoptées probablement au printemps pour la nouvelle session. Mais ça doit émaner d'un groupe et pas d'un individu.
Grand suspense. Alors Bernard Delpal, merci d'être venu au micro de Radio-là. Donc je rappelle que le micro-festival du film se tiendra à Dieu le fit vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 novembre à la Halle. Ce sont deux films et une rencontre par jour qui sont proposés. Ça commence à 14h. Vous venez pour le programme en entier. C'est gratuit, même si l'adhésion à l'association est quand même vivement conseillée. On vous mettra bien sûr le lien du programme sur la page de notre interview. Bernard Delpal, merci beaucoup.
Ben merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt.
Radiola.media.